France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
On va donner de la voix ce soir. 3,5 millions de personnes chantent dans des chorales et la relève est assurée puisque près de la moitié ont moins de 18 ans. Les chorales amateurs de quartiers, de villages, de tous les genres de musique donnent l'équivalent de 100 000 concerts par an et le succès de la tournée 500 voix pour Queen, payante elle, montre à quel point les amateurs sont motivés. Alors pourquoi ce besoin de ne pas se contenter de la salle de bain pour s'époumoner? Qu'est-ce que les chorales racontent de notre époque, de notre collectif par ailleurs mis à mal? Les The Voice et autres Starac donnent-elles le la? Et on ne parle même pas du film Les Choristes qui vient de ressortir 20 ans après. Bref, si vous chantez, c'est le moment de parler, de nous dire comment ça vous nourrit. Pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter, s'interrogeait Georges Brassens. Eh bien, on va essayer de faire les deux, tous ensemble ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Magali.
Bonsoir France Inter, merci de me prendre à l'antenne.
C'est vous qui ouvrez l'émission, on vous écoute.
C'est gentil, non mais je voulais juste témoigner du bonheur que c'est de chanter dans une chorale en groupe. Moi en fait, pour mon petit témoignage, je suis arrivée à Paris il y a quelques années. Je viens de province comme les Parisiens disent. Mmh. Et on m'a conseillé une chorale de comédie musicale qui s'appelle Le Cœur de Pierre. Ouais. En fait, avant de tester cette chorale, j'avais testé d'autres chorales plus classiques, sans être péjoratif, hein, parce que l'opéra c'est quand même l'ancêtre des comédies musicales. Mais disons que la population n'était pas trop de mon âge et le répertoire était pas très jeune. Mmh. Donc voilà, je me suis faite à cette chorale juste avant le Covid.
Oui.
Et disons que c'est pas que ma vie a changé, mais comme beaucoup d'autres personnes dans cette chorale, ça a généré un immense bonheur dans notre vie.
C'est-à-dire, expliquez-moi pourquoi ça vous procure autant de bonheur.
Alors déjà, le fait de ne plus chanter tout seul chez soi et de chanter en harmonie avec plein de pupitres, c'est, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le cerveau qui génère de l'ocytocine. Et après, ça m'a fait découvrir tout un répertoire, parce que les comédies musicales, c'est plutôt anglo-saxon comme répertoire. Mmh. Et dans notre chorale, on chante du Greatest Showman, Les Misérables, tous les best-sellers de Broadway, mais aussi des Disney.
Oui.
42nd Street, voilà, il y a beaucoup de comédies musicales qui sont peu malheureusement connues en France.
Et vous chantez en anglais aussi au passage ?
On chante beaucoup en anglais dans ma chorale, oui.
Et c'est sympa aussi de chanter en
anglais.
C'est
sympa, on devient bilingue, on comprend le texte, on met beaucoup d'intention dans le texte, on soigne avec on a un chef de chœur qui est vraiment génial, qui nous met beaucoup d'intention dans le texte. Mm-hmm. Et parfois, c'est même très émouvant. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux pour chanter un texte. Bon, là, en l'occurrence, c'était un chœur des esclaves d'Égypte. Attendez, c'est un dessin animé, je ne me rappelle plus. Le prince d'Égypte.
Oui.
Et donc, voilà, ça fait beaucoup d'émotions, de joie. Mmh.
Et ça vous procure beaucoup de bonheur, en fait.
Beaucoup
c'est ça qu'on entend.
Ouais. Bon. Et je n'envisage pas de partir de Paris. Même si ce serait pour retrouver le soleil, juste pour garder cette chorale qui est assez précieuse à mon cœur.
Ah bah c'est formidable.
Voilà.
C'est
chaque année, on fait un spectacle. L'année dernière, on était au Palais des Congrès.
Ouais. Ah oui, quand même. D'accord.
Et cette année, ouais.
Bah écoutez, on entend votre passion, on entend votre plaisir et ça donne le la de cette émission. Pour parler de ces chorales ce soir, Guillaume Lurton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers. Et nous sommes aussi avec quelqu'un qui connaît bien le sujet dans notre maison ronde, Marie-Noëlle Mertens, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice musicale adjointe de la maîtrise de Radio France. Vous êtes en duplex de France Bleu Orléans. On remercie au passage nos confrères. Guillaume Lurton, on entend Magali, elle nous parle de bonheur. C'est ça qui guide au départ. Pourquoi le chant nous procure-t-il autant de plaisir ?
Alors, pourquoi le chant procure du plaisir? Est-ce que c'est de l'ocytocine? Qu'est-ce que quelque chose qui se passe au niveau du cerveau? Alors ça, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis sociologue. Mais ce que je vois, c'est que ce qu'on entend dans ce témoignage est très représentatif de beaucoup de choses qu'on voit sur le terrain. Et en particulier, qu'il n'y a pas un chant choral, mais des chants chorales et énormément de raisons de s'y retrouver, de s'y projeter, qui vont dépendre finalement des individus et de leur motivation. Alors, ça peut être des questions liée à la musique, au répertoire, on y reviendra sans doute. Hein.
Oui.
Déjà, est-ce que je suis là pour chanter de la musique classique, de la comédie musicale, du gospel, ou que sais-je ? Pourquoi est-ce que j'y suis ? Est-ce que j'y suis essentiellement pour chanter ou pour socialiser ? Quelque chose de très révélateur ici, j'ai rejoint la chorale, j'arrive à Paris, j'ai besoin de me retrouver dans un groupe et de socialiser. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit.
Ça évite d'être tout seul.
Voilà,
et c'est quelque chose qu'on... Et en plus, on partage un moment collectif de bonheur.
Et exactement. Très souvent, les gens qui découvrent le chant choral, ça se fait dans ces périodes de changement. Ce que j'entends en entretien, c'est alors par exemple, les enfants sont assez grands, j'ai besoin de reprendre une activité, ils peuvent se garder, je cherche quelque chose, ça tombe sur la chorale. Ou alors au moment de la retraite, ça explique peut-être des choses aussi sur... voilà, la question du profil des âges des choristes. On est sur une pratique, bah, vous l'avez souligné, 3,5 millions de pratiquants, dont 2 millions d'adultes, en fait, de plus de 18 ans. C'est assez remarquable pour une pratique amateur. En principe, les pratiques amateurs musicales, c'est beaucoup des pratiques juvéniles liées à des situations d'apprentissage, école de musique, conservatoire. Là, on est sur une pratique adulte, et en particulier très représentée parmi les personnes dans le domaine retraité. Donc, il y a cet enjeu de socialisation qui est important.
Oui. Est-ce qu'on connaît le nombre exact de chorales en France aujourd'hui ?
Absolument pas. Non,
pourtant, vous avez fait un travail exhaustif, si j'ose dire. Hein.
Alors, exhaustif...
Enfin, vous avez essayé.
Non, on fait ce qu'on peut. On a assez peu d'indicateurs, parce que finalement, malheureusement, quand on est sociologue, on essaye de produire des statistiques, mais peut-être heureusement, dans le fond, le chant choral n'est pas une fédération. Il y a des fédérations de chant choral, différents mouvements, mais il n'y a pas un mouvement unifié où on prend sa licence pour faire du chant choral. C'est ouvert, c'est libre.
Il n'y a pas de licence, c'est associatif en général.
Alors, c'est très largement associatif. Beaucoup des chorales dans lesquelles chantent les amateurs sont des structures associatives. Mais ça peut être, y compris, totalement informel. Des groupes qui se montent comme ça, des groupes de copains qui commencent à répéter sans structure associative, à chanter un petit peu, puis ça peut se formaliser. Donc évidemment, ces groupes informels, on a beaucoup moins d'éléments pour les cerner. Le milieu associatif, on peut le sonder, on peut faire comme ce qu'on a fait là sur cette grande enquête nationale.
Oui, alors je précise que vous faites partie d'un collectif qui a mené une grande enquête sur les chorales. Il n'y avait pas eu d'état des lieux depuis 2005 et vous avez rendu votre rapport il y a à peu près un mois.
Voilà, on vient de publier cette mise à jour. Alors effectivement, au début des années 2000, il y avait eu ce gros état des lieux qui avait fait. Alors à l'époque, on avait peut-être une vision un peu plus précise. Il y avait beaucoup de structures, ce qu'on appelle les missions voix en région, qui pilotent.
Alors qu'est-ce
comme
que
ça.
C'est les missions voix ?
Alors ce sont des structures qui ont des missions d'encadrement et de mise en réseau des pratiques chorales. Il y en a relativement... Beaucoup ont disparu. Maintenant, il en reste quelques-unes en région Centre-Val de Loire, le Cépravois, en région Grand Est, l'INEC. Je vais en oublier Bourgogne-Franche-Comté, la Cité de la Voix. Je m'excuse auprès des autres. Donc ça, il y a ces structures qui sont actives. Il y a aussi des grosses fédérations de chants chorales qui sont des grosses structures. Alors la principale, c'est à Cœur Joie. Il y a également la CMF, la Confédération Musicale de France, qui fédère un petit peu ce milieu. Là. Il y a d'autres structures comme l'Institut français d'accord choral. Donc toutes ces structures-là se sont rassemblées. C'est assez nouveau cette année que toutes ces structures travaillent.
Et le fait qu'elles travaillent ensemble, ça donne encore plus de voix, si j'ose dire.
Alors,
aux chorales,
je pense que c'est ce qu'ils cherchent, effectivement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. On ne travaillait pas comme ça de concert. Et là, il y a eu cette convergence d'efforts pour mettre un petit peu en lumière ce que c'est que le chant choral. Et donc, j'étais absolument ravi de travailler avec ces structures pour mener cette enquête.
Allez, on repart au Standard avec Guillaume, bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Nous
merci
vous écoutons.
De prendre mon appel.
Je vous en prie.
Eh bien, moi aussi, je suis un choriste rennais, dans une petite chorale d'une trentaine de chanteurs. Ça me procure convivialité, détente et bien-être, énormément de bien-être. Et justement, je me posais la question, est-ce que voilà, il y a des études scientifiques qui montrent tout ce que peut apporter à l'organisme et au corps, le fait de chanter et de chanter en groupe, peut-être pour au niveau du cerveau, au niveau de la respiration. En tout cas, ce sont des moments très agréables pour soi et aussi voilà, du bon temps passé avec les autres.
Alors, sur le plaisir que ça procure, Marie-Noël Merten. Vous n'êtes pas scientifique, mais vous avez un tout petit peu d'expérience.
Oui, tout à fait. Je pense que déjà, le premier plaisir que procure le chant, c'est le fait que nos corps entrent en résonance avec les voix des gens qui sont autour de nous. Et cette idée que les voix se multiplient et fassent un ensemble est très très bénéfique. Après, il y a aussi dans le chant un gros travail sur la respiration.
Oui.
Et plus on respire, mieux on respire. Plus on se détend, plus la voix résonne. Et moi, je sens très très souvent une espèce d'effet boule de neige du plaisir de chanter qu'en fait on veut retrouver. Parce que le corps a installé quelque chose de bien, et quand on installe quelque chose de bien, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir.
C'est d'y retourner, oui, c'est un plaisir, quoi. Et ça peut devenir addictif, tel que vous nous le décrivez.
Alors, moi je connais beaucoup de gens qui ne font que chanter. Hein, et très, très honnêtement, quand on sort d'une répétition où ça s'est bien passé, où on est sorti avec quelque chose de beau, on a forcément envie d'y revenir. Et moi qui en fais une habitude quotidienne, je m'en passe difficilement.
Mmh. Vous chantez combien d'heures tous les jours, Marie-Noëlle Mertens?
Alors, je fais environ entre 3 et 4 heures de répétition les après-midi, quotidiennes.
C'est
moi qui fais les répétitions, donc je fais chanter, mais pour faire chanter, on chante autant qu'on parle, en fait. Hein, et c'est toujours, je sors quand ça s'est bien passé, je sors généralement beaucoup moins fatiguée que si un après-midi je suis arrivée fatiguée. Mm-hmm. Généralement, ça enlève toute la fatigue, et je pense qu'aussi c'est le partage de la joie, du plaisir de chanter avec les choristes qui nourrit beaucoup, beaucoup.
Mm. C'est énergisant de toute façon le chant, hein.
Oui, c'est énergisant. Toute cette question de respiration, et aussi que tout le corps soit investi dans le fait de chanter, renouvelle l'énergie, et au bout d'un moment, on est vraiment en forme. D'ailleurs, souvent après les concerts, j'ai du mal à dormir.
On a du mal à redescendre. Oui, c'est comme nous quand on sort de l'antenne, hein, pour vous dire la vérité, Marie-Noëlle. Il nous faut deux bonnes heures quand même pour que ça redescende. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est un peu comparable à une discipline sportive de haut niveau aussi, à votre niveau? Parce que vous faites des heures et des heures.
Oui, je te dirais que oui, parce que en fait le corps participe vraiment du chant. Je dis souvent aux élèves de la maîtrise que quand on chante, c'est comme si on jouait au foot ou on jouait à la balle dans la cour de récréation. Ça demande le même investissement corporel. Mmh,
mmh. Alors vous, Marie-Noëlle Mertens, vous faites chanter des 8-18 ans.
Oui, c'est ça.
Il y a un concours d'entrée, hein, pour entrer à la maîtrise de Radio France. Quel est le profil de ces enfants et adolescents?
Alors, on a deux recrutements qui sont pour la même formation qui est la maîtrise. Un à Paris, un à Bondy. Sur celui de Paris, on a beaucoup d'enfants qui chantent déjà en chorale et qui ont très envie de chanter tout le temps. Souvent, quand on lit les lettres de motivation, on voit écrit « Moi, je chante le mercredi, mais je veux chanter le lundi, le mardi. »
C'est mignon.
Ça fait toujours très, très chaud au cœur de voir les mots des enfants. Il y en a beaucoup qui disent aussi « Mais quand je chante, moi, j'oublie tout. » Ou quand j'ai peur, je chante, ça me rassure. Mmh. Et puis sur Bondy, ce sont des enfants en fait qui ont fait pendant un an une pratique avec des chefs de chœur de la maîtrise qui sont allés dans les écoles et qui ont aimé et qui souhaitent rentrer aussi. Alors ils sont un petit peu plus jeunes qu'à Paris, ils ont un an de moins.
Mmh. Alors les élèves qui rentrent dans la maîtrise sont en mi-temps pédagogique, c'est ça?
Oui, complètement. Ils sont en ce qu'on appelle en double cursus. Mmh. Donc ça ressemble à des classes CHAM, sauf que tous les après-midi,
les classes CHAM, c'est
avec classes à horaire aménagé musique.
Donc voilà,
on
merci.
On en a beaucoup ça. Donc ce sont des élèves qui ont des bouts d'après-midi, généralement deux moitiés d'après-midi ou un peu plus, libérés pour pouvoir faire de la musique, aller au conservatoire. Il y a des classes d'orchestre, des classes de chorale en CHAM. Et donc le double cursus, c'est un petit peu plus intense que ça. C'est-à-dire que tous les après-midi sont dédiés au travail à la maîtrise. Donc il y a du chant chorale, évidemment, quasiment une heure par jour pour tous les groupes, parce qu'évidemment, les groupes sont en fonction des âges des enfants. Ils ont aussi un cours de chant par semaine, un cours de piano, cours de formation musicale. Et alors après, on aime bien, quand on peut, mettre un atelier donc de rythmique dalcroze. La dalcroze, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est comment apprendre les notions musicales par le corps, par le geste, par le mouvement.
Ah, expliquez-nous ça, parce que moi, je ne connais pas du tout ça.
Alors, c'est une technique pédagogique où toutes les notions de musique, par exemple, la levée, quand on dit la levée, c'est quand on part comme si on prenait notre élan pour aller sur une note. Oui. Ça se fait avec le corps. On tape des rythmes avec les pieds. On apprend à faire une phrase musicale en ayant un déroulé dans la pièce. Bon, tout ce genre de choses.
Et c'est de manière à mieux ressentir la musique.
Voilà, à mieux ressentir des fois aussi, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que ça se rejoint avec le chant, des notions qui sont parfois abstraites, de pouvoir les vivre soit intensément dans le corps. Mm-hmm. C'est important, et en technique vocale, on a la même chose, surtout avec des enfants. On a besoin de d'imprégner les choses, de les vivre en soi avant de pouvoir les donner. Oui. Tout ça se rejoint un peu, et le travail avec le corps, je disais tout à l'heure, tout le corps participe au chant, et plus le corps a compris ce qu'on fait musicalement, mieux ça se passe après.
Mm-hmm. Allez, on retourne au standard. Frédéric est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien?
Très bien, vous êtes chef de chœur.
Oui, je suis chef de chœur amateur pour chorale amateur, mais également choriste dans un chœur symphonique. Merci Monsieur Lurton pour votre étude que j'ai suivie attentivement, et merci France Inter pour votre succès d'audience qui sont
ah oui, ça nous production. Fait plaisir aussi, on peut vous le dire.
Oui, une production de qualité est sans cesse renouvelée, et ce sont justement ces deux axes qualitatif que je voudrais mettre en avant au niveau des chorales. Car si l'étude de M. Lurton est une très bonne base, ce n'est qu'une photographie à l'instant T. Et depuis 15 ans que je milite au sein de la Fédération à cœur joie pour le développement du chant choral, je dis il faut aller à l'action, il faut aller beaucoup plus loin pour le développer. Votre émission y contribue, j'en suis ravi. Et pour ce développement, on peut faire 1000 choses, je n'en citerai que deux pour des raisons de temps. Premièrement, à mon avis, il faut renouveler le répertoire classique, des chants traditionnels, des chants sacrés est absolument innombrable, mais par exemple, pour des gens de ma génération, des productions anglo-saxonnes, entre les Bee Gees et Metallica par exemple, il y a un spectre énorme de chansons extrêmement connues, extrêmement populaires, et le répertoire est très très faible à ce niveau-là. Mmh. Je citerai aussi Kid Quid, du hip-hop, du rap, du métal.
Ou Queen aussi.
Qui parle à des gens d'aujourd'hui. Alors oui, Queen, U2, tout ça, on les entend partout, mais on va en chercher très peu des comme ça. Et c'est heureux que ça se passe, mais c'est assez peu développé. Donc je voudrais citer pour ça l'excellent travail d'une chef de chœur, Jeanne d'Ambreville, avec son groupe les Funky Frogs.
Que Guillaume Lurton a l'air de connaître, oui.
Oui, ils font de la qualité, ils sont renouvelés sans cesse, c'est vraiment...
Juste pour avancer un tout petit peu dans votre raisonnement, Frédéric, vous disiez... Il y a deux choses sur lesquelles il faut aller plus loin. Donc, renouveler le répertoire, La deuxième, c'est laquelle ?
La deuxième, communiquer avec des productions de qualité. En local, nous, chefs de chœur et choristes, nous devons produire des concerts qui soient de qualité. On ne va pas attirer les jeunes avec des gens qui chantent faux, dont les voix sont vraiment décalées, qui n'ont pas suffisamment travaillé. Il y a 1000 choses à dire là-dessus, on n'a pas le temps. Et au niveau national, des émissions comme la vôtre ne pourraient-elles pas être prolongées par exemple, je rêve que Nagui invite une vedette, je prends Ed Sheeran par exemple, la taratata.
Ed Sheeran, oui.
Oui. Et en même temps, pas à la place, mais en même temps, il y a la production chorale du type de MCRL qui soit diffusée. Ouais. Et pourquoi pas dans l'émission de Nicole Sassayas, dans la programmation de Djoubaka,
oui, pourquoi pas,
Gisèle, etc.
Bon, il faudrait qu'on entende les chorales un peu plus. Je vous suis. Guillaume Lurton, il dit plein de choses intéressantes, Frédéric. Renouveler le répertoire.
Oui, alors l'enjeu du répertoire dans le domaine choral, c'est là aussi assez complexe, parce que qu'est-ce que c'est que le répertoire choral ? Ben, potentiellement, c'est tout.
Le chant choral, c'est chanter en groupe. En fait, on choisit ce qu'on veut, non ?
À partir du moment où on peut chanter à plusieurs une musique, quelque part, ça devient choral. Alors, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que il y a quand même une histoire de la musique, une tradition musicale par derrière. Donc, il y a tout le répertoire savant, tout ce qui est musique classique, la chanson Renaissance.
Oui, on a l'impression que lui, voilà. Il aimerait bien sortir de ça.
Je ne sais pas si c'est exclusivement ça. Ensuite, il y a tout le reste du répertoire, tout ce qu'on va appeler les variétés, musique populaire, tout ça. La plupart de ces musiques pour qu'une chorale puisse le chanter, il faut quand même retravailler un petit peu dessus. Mmh. Éventuellement le réécrire, l'harmoniser pour que ça puisse être chanté à plusieurs voix ou donner une teinte chorale. Alors ça, c'est à ce genre de travail, je pense, que cet auditeur faisait allusion. Des chefs font ce travail. Ça a des implications assez fortes parce que pour un chef, c'est pas la même chose de travailler sur du répertoire classique, écrit, qui s'inscrit dans une tradition, ou alors aller réharmoniser, réarranger du répertoire pour l'adapter à son groupe. Le casse-tête des chefs, c'est toujours d'adapter également la musique d'une manière qui soit abordable par le groupe, c'est-à-dire en fonction des voix, en fonction du niveau des chanteurs.
Il faut que chacun y trouve son compte quand même, il trouve sa place. Parce que
ensuite,
c'est compliqué aussi.
Le dernier enjeu, c'est comment faire pour que tout le monde s'y retrouve au sein du groupe. Alors, ce qu'on voit là dans le milieu choral, c'est qu'en fait, il y a des orientations assez différentes. Là, ce qui ressort de l'étude, on a un quart à peu près des groupes qui sont spécialisés sur ce répertoire de musique classique. Donc, ils vont aller faire, de la cantate baroque, de la musique renaissance. Et le reste va se partager entre des groupes qui vont avoir tendance à se spécialiser sur des répertoires populaires. Ça peut être de la variété, du gospel, du negro spiritual, du jazz vocal, des spécialisations comme ça. Et il y a quand même une grosse proportion, là, dans l'enquête de 2023, là, on le mesure autour de 40%, qui sont des groupes qui font de tout. C'est-à-dire qui vont commencer par chanter une chanson renaissance, faire une chanson de variété traditionnelle harmonisée, puis on va passer à un extrait, un chœur tiré d'une cantate de Bach.
Et ils font des spectacles comme ça, très éclectiques.
Oui, c'est ce genre de spectacle, ça fait partie. Quand j'interrogeais là pendant ma thèse il y a 20 ans, un des grands acteurs du milieu choral, Stéphane Kaya, qui a joué un rôle central dans le milieu choral des années 50 aux années 80-90, il me décrivait déjà ce mélange des genres. Il disait, on chantait de tout, c'était la salade la plus totale. Et il concluait, c'était le chant choral. Mmh. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Ce chant choral, c'est cette capacité aussi à mélanger les genres.
Marie-Noëlle Mertens, est-ce que vous renouvelez régulièrement le répertoire de la maîtrise de Radio France ?
Alors oui, le fait d'être à la maîtrise de Radio France nous demande aussi un rôle de service public qui est de faire des créations contemporaine. Donc tous les ans, il y a plusieurs créations qui sont interprétées. On essaye aussi d'en commander des. Alors il y en a des très difficiles qui sont faites par nos plus grandes jeunes filles. On essaye d'en commander régulièrement de plus simples qui peuvent être abordés par des chœurs des chœurs d'enfants en fait qui auraient un niveau moins précis que celui des grands de la maîtrise. Après, dans le répertoire de chœurs d'enfants, parce qu'à la maîtrise ce sont principalement des voix égales, on a quelques classiques qu'on fait et qui à mon sens sont aussi très formateurs pour l'évolution musicale de nos élèves, donc on essaye de les faire. Et puis en effet, à côté, on cherche à diversifier les choses et sur une saison, on essaye de faire en sorte qu'ils aient fait un petit peu de tout.
Mmh. On continue à dialoguer avec les auditeurs. Céline est au standard, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, déjà, merci énormément de la qualité de votre service qui mérite en effet le nombre d'audiences que vous recevez. Oui, je me suis permis de témoigner parce que je suis prof dans le Bas-Rhin et on a un collègue de musique qui nous a proposé de former une chorale sur la pause déjeuner de prof.
Oui.
Et donc ça a évidemment plein de bénéfices, outre le fait qu'en effet c'est très énergisant, ça éclaire parfois un petit peu le climat scolaire qui pourtant le nôtre est plutôt bon, je pense qu'on est un petit peu protégé, mais malgré tout ça fait du bien au moral, ça c'est évident au quotidien. Ça a aussi le mérite de lier des professeurs qui se côtoient de loin, peut-être en salle des profs parce qu'on est plus d'une centaine à travailler sur cet établissement, pardon. Et puis ça a aussi un mérite que moi je trouve très important, c'est que ça nous replace dans la situation d'apprenant. Et parce qu'on a envie d'essayer de faire mieux. Alors on progresse heureusement depuis qu'on a commencé, mais il y a une vraie gratification, une vraie joie à se remettre en fait dans cette peau d'apprenant. Et je pense aussi que du coup on comprend mieux nos élèves d'une certaine manière quand ils passent au tableau ou notamment pour les épreuves du grand oral.
Et ça crée du lien entre vous aussi, les profs.
Ah, énormément. Alors,
des liens que vous n'auriez peut-être pas créés autrement en salle des profs.
tout à fait. Je pense qu'en effet, certaines disciplines se côtoient peut-être un peu moins naturellement et on redécouvre nos collègues avec un autre visage. Et voilà, et un grand, grand merci à M. Hummel pour avoir eu cette idée formidable qui a aussi le mérite de relier avec nos élèves parce qu'on va se produire à la fin de l'année avec nos élèves qui font aussi chorale.
Bon, bah, c'est super. Et on l'entend, Guillaume Lurton, à travers le témoignage de Céline, c'est du lien social aussi.
C'est du lien. Intéressant là, c'est de voir cette place là du chant à l'école. Ouais. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose alors qui a été incité. Hein, il y a eu des directives en 2017 pour renforcer la place du chant choral à l'école. Et là, on voit un peu les deux versants, la dimension éducative auprès des élèves et en plus la dimension pratique adulte du corps professoral qui sera proche des élèves. Et ça témoigne d'une évolution du milieu. C'est-à-dire cette implication et ce développement de chant choral à portée pédagogique, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui s'est mis en place il y a quelques décennies, qui n'existaient pas jusque dans les années 80-90. Et là, c'est une vraie transformation du milieu.
Et comment vous l'expliquez ?
Parce qu'il y a des évolutions institutionnelles assez fortes. Jusque dans les années 80, le chant choral, c'était un milieu exclusivement amateur, qui était porté par ces fédérations dont on parle, qui faisaient de la formation des chefs de chœur. Depuis les années 80-90, il y a eu énormément d'évolutions, la création de diplômes de formation à la direction de chœur, l'ouverture de chœur en conservatoire. Il n'y avait pas de chœur en conservatoire, il n'y avait pas de formation à la direction de chœur en conservatoire jusque dans les années 80-90. La place du chœur en éducation musicale, moi je suis d'une génération où on faisait encore de la flûte à bec
à
l'école. Bon, maintenant le chœur prend de plus en plus de place. Donc il y a eu vraiment des transformations là, au cours des dernières décennies qui ont vraiment transformé le milieu.
On parlait du chant à l'école, des chorales de profs avec Céline, Marie-Noëlle Merten. Il y a aussi des chorales en entreprise et notamment à Radio France. Et je crois que c'est vous qui vous en occupez.
Oui, alors j'en suis très très heureuse. On tente de faire une chorale de salariés. Donc pour l'instant, on en est à un coup d'essai qui aura lieu le 13 juin. Donc les salariés qui le souhaitent, donc ce seront les 50 premiers inscrits.
Bah oui, mais j'ai pas réussi à m'inscrire, figurez-vous.
Bon, bah,
j'en profite, je fais de l'entrisme.
Si jamais une place se libère, on pensera à vous tout de suite. Et donc on va travailler en fait sur la journée pour préparer pour le soir la fête des salariés, quatre chants, voilà. Alors justement d'un répertoire assez éclectique, j'espère.
C'est presque un signe d'appartenance aussi à une entreprise. C'est une autre façon de faire du lien dans l'entreprise, Marie-Noëlle Merten.
Ah oui, complètement. Mais de toute façon, je pense que la force du projet et la force de chanter donne un sentiment d'appartenance qui est formidable. Et puis aussi, quand on chante, on s'écoute. Forcément, mais la beauté du chœur, c'est, pour moi, c'est la différence de toutes ces voix qui ne font qu'une voix parce que tout le monde est capable de s'écouter, de prendre sa place et d'écouter l'autre. Et pour ça, moi, c'est pour le lien social, pour le sentiment d'appartenance, c'est d'une force inouïe.
J'imagine. Et puis, il y a aussi des chorales militantes et on a voulu en parler avec Colline Pellissier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de la chorale Nos Lèvres Révoltées. C'est une chorale féministe. Pourquoi avez-vous voulu fonder ce type de chorale ?
C'est une chorale féministe. Alors ça allie donc la pratique du chœur et la pratique du féminisme et en tout cas le militantisme féministe. Donc c'est une chorale qui est exclusivement composée de femmes et de minorités de genre, donc de personnes non binaires et de personnes trans. Et on a voulu chanter ensemble comme ça. Donc moi je suis la fondatrice, mais c'est vraiment un projet collectif. C'était un peu un hasard que ce soit moi la fondatrice. C'était un projet avec l'idée de à la fois sensibiliser des publics à un message, donc c'est-à-dire faire passer un message féministe à l'échelle chanter dans certains endroits pour parler du féminisme, pour parler des questions de genre, faire vivre un répertoire aussi qui était parfois oublié, donc un répertoire ouvrier, un répertoire de lutte qui est à la fois un répertoire ancien et puis aussi plus récent puisqu'on on arrange tous les chants qu'on chante et on arrange aussi des chants récents. Et une volonté aussi de réfléchir à l'organisation de ce que c'était une chorale, puisque une chorale, il y a souvent un chef de chœur, et ça peut être super. Mais c'est aussi l'occasion de faire groupe et donc de réfléchir à une organisation collective et horizontale qui prend vraiment forme dans le chœur, puisque comme ça vient d'être dit, il y a un fort sentiment d'appartenance, il y a une écoute de l'autre, on harmonise nos voix ensemble, et donc c'est assez fort aussi politiquement comme message.
C'est ça, c'est-à-dire que vous alliez en fait un engagement politique avec le plaisir de chanter.
C'est ça, et c'est un plaisir qui est, bah, que ça a été dit très fort. C'est physiquement engagé de chanter. Mmh. Il y a une forme de joie militante aussi qui vient s'exprimer là-dedans.
Vous avez le militantisme joyeux en fait, c'est ça.
C'est ça, exactement. Mais il y a la dimension artistique et militante, et puis il y a aussi la dimension évidemment, bah, voilà, sociale de la joie d'être ensemble et de la joie de chanter ensemble, qui est très importante.
Et pourquoi avez-vous eu ce besoin à un moment de vous retrouver entre femmes?
Alors on n'est pas que des femmes, c'est donc oui, femmes et minorités de genre.
Pardon.
On a eu ce besoin de se retrouver entre femmes et minorités de genre, justement pour porter une voix qui est moins écoutée dans la société. Mmh. Donc là, l'idée de porter sa voix prend tout son sens quand on se met à chanter ensemble. Et donc c'est aussi un espace de bien-être, de soins pour nous, entre nous, et aussi un espace ouvert sur le dehors, puisqu'on fait des concerts et on fait aussi des ateliers pédagogiques. On a fait des ateliers pédagogiques dans des collèges et dans des lycées, mais aussi à destination de personnes, de groupes de personnes qui avaient envie de chanter et de se poser des questions sur le féminisme et les questions de genre. Donc voilà, c'est aussi ouvert sur tout le monde et sur le dehors pour sensibiliser.
Eh ben merci d'avoir témoigné. Merci Corinne Pellissier. On a une note vocale de Samuel.
Bonjour France Inter, je voulais vous remercier pour votre émission et puis partager ma petite expérience de la chorale. Moi j'ai 23 ans et j'aurais pas cru il y a un an que j'aurais pris tant de plaisir à chanter de la musique classique. À 100. J'ai vraiment appris à apprécier des œuvres d'opéra que je ne connaissais pas, des œuvres aussi de musique sacrée comme le Requiem de Fauré, que j'ai eu la chance de pouvoir chanter dans des grandes églises. C'est vraiment quelque chose qui nous fait nous sortir de notre quotidien pour une œuvre collective. Alors que dans notre quotidien, on travaille tous un peu à nos tâches quotidiennes dans notre coin, un peu, parfois en équipe, mais on n'a pas autant cette impression de travailler à quelque chose de collectif. Et c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a beaucoup motivé et fait que j'y suis encore. C'est quelque chose qui porte et qui nous donne envie de se donner et d'aller plus loin, d'aller aussi vers l'émerveillement et de donner de nous, de nous donner de notre personne.
Voilà, malheureusement, il est très enthousiaste, Samuel. Guillaume Lurton, la chorale à 100.
Ah oui, ce sont des choses qui existent. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sont de longue date hein, dans le milieu. On apprécie de se retrouver dans des grandes masses chantantes. Mmh. Alors, ce sont des choses. Alors, on parle beaucoup des fédérations. Les fédérations font ça, des rassemblements. On va rassembler plein de chorales ensemble pour se mettre à plusieurs centaines à chanter. C'est des choses qui existent historiquement, hein, ce qu'on appelait le mouvement orphéonique au 19e siècle, 20e siècle. À l'occasion des expositions universelles à Paris, on a comme ça des traces de rassemblements très massifs. Et il y a ce côté un peu grisant. Alors, du coup, c'est intéressant parce que c'est des choses qui ont un peu interrogé par la suite, et on peut faire le lien avec la question sur les chorales militantes. Mmh. On voit qu'effectivement ces chorales militantes, en ce moment, on en entend de plus en plus parler, elles prennent de la place. C'est intéressant parce que la dimension militante du chant choral, elle a toujours existé.
Les chants révolutionnaires aussi. Hein.
Voilà, des chorales ouvrières, des chorales rattachées à des mouvements politiques, ça a toujours existé au cours du XXe siècle. Simplement, depuis l'après-guerre, on s'en est un petit peu méfié, parce que justement, il y a eu ces pratiques de chants massifs, de mise en d'utilisation, d'instrumentalisation du chant choral par les totalitarismes. Et il y a quand même eu une phase où la dimension militante du chant et justement ces grandes masses chantantes, ça provoquer, on va dire, peut-être certaines réticences. Et c'est des choses qui... Enfin, la dimension militante du chœur, là, j'ai l'impression, est en train de... On est dans une phase où c'est en train de revenir.
De repartir. Ben, on avait Vincent au Standard qui nous disait « Je chante dans une chorale anarchiste qui s'appelle l'anarchorale. » Ça paraît assez logique. « On chante en manif, on répète toutes les semaines. On est une trentaine, quarantaine de choristes. » Il y a aussi beaucoup de chants hein, dans les manifs, faut pas oublier.
Oui, bah ça existe effectivement, ces chœurs dont la vocation est de chanter en manif, ou alors ces chœurs sans chef pour une organisation plus horizontale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans la plupart des chorales, le rôle du chef est en premier lieu un rôle pédagogique. La fonction de chef, elle est extrêmement complexe. C'est à la fois de diriger musicalement, artistiquement, mais c'est aussi d'être un formateur. On a en face de soi...
Tout dépend du chef de chœur, en fait. Hein. C'est le personnage central, quand même.
Oui, alors, oui et non. On peut
Parce
imaginer
qu'on va s'accorder autour de lui, quand
voilà.
même.
On peut imaginer des chœurs... L'auditrice sur la chorale féministe en témoignait. Hein. On peut imaginer des chefs sans cœur, mais dans la majorité des cas, malgré tout, il faut quelqu'un qui soit en fait à la fois un pédagogue, un artiste, un animateur, qui soit là pour mettre en place cette dynamique autour du groupe.
Bonsoir Valentine.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Toulouse.
Je vous appelle de Toulouse, oui. Je vais rebondir sur différentes choses, mais rapidement. Moi, j'ai fait partie, étant à l'école, au collège, on faisait de la flûte à bec, certes, mais on faisait aussi du chant choral avec notre prof de musique. J'avais fait ça dans le but d'essayer d'apprendre à placer ma voix à chanter, parce que je chante fou et que tout le monde à la maison s'en plaignait quand on faisait de la guitare avec du chant. Là, à l'âge adulte, j'aurais aimé reprendre. Je suis en plus asthmatique et je vous dis que ça fait un bien fou que de chanter, parce qu'au niveau du souffle, ça détend le diaphragme, ça détend les neurones au niveau du cerveau. Honnêtement, physiquement, c'est un apport énorme. Mais là, à l'âge adulte, j'aimerais apprendre à poser ma voix, à savoir chanter, et puis pas avoir honte, pas pour en devenir professionnel ou quoi que ce soit, pour juste partager avec les autres, parce que souvent, j'ouvre la bouche, je fais croire. Il y a sur Toulouse...
Vous faites du playback
voilà, je fais du playback, je le fais pas très bien d'ailleurs. Mais à Toulouse, il y a des concerts gratuits où on peut chanter à la fin avec des concerts de Bach organisés par Michel Brun, vous devez connaître, sur du chant baroque. C'est merveilleux, ça vous
transcende. On entend bien que ça... On entend que ça vous fait du bien, mais Marie-Noëlle Merten, personne ne chante faux.
Alors, je le dis, je le redis, je le répète, personne ne chante faux.
Merci.
Voilà, il y a un peu des fois du travail à faire et il y a généralement beaucoup de désinhibition. Parce que la plupart des fois où j'entends des gens qui disent « mais je chante faux », c'est qu'on a dit un jour « tu chantes faux » et les gens n'ont après plus jamais osé chanter.
Oui, parce que chanter, c'est se mettre à découvert quand même.
Oui, c'est toute la sphère émotionnelle qu'on met sur la table, hein, donc c'est quand même important. On donne beaucoup de soi quand on chante et je pense qu'il n'y a rien de pire de dire à quelqu'un « tu chantes faux ». Et moi, j'ai des fois récupéré des enfants à qui les parents avaient dit « de toute façon, tu chantes faux », qui étaient en larmes le jour où ils ont chanté juste. Moi, je m'en souviens encore. Hein, je revois encore ce regard qui s'éclaircit et la petite qui tombe en larmes. Après, je pense qu'il y a du travail à faire. Des fois, il y a un souci d'engagement corporel. Il y a des fois des gens qui entendent pas bien ce qu'ils font ou ce qu'ils font à côté des autres. Donc, il y a un peu de travail, mais personne ne peut pas réussir à chanter. Ce n'est pas possible.
On va finir rapidement avec Pierre qui a 12 ans. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Tu fais de la chorale, toi aussi?
Oui, je suis au Créa, au chœur de scène d'Aulnay-sous-Bois.
Oui. Guillaume Lurton a l'air de bien connaître. Et alors, comment ça se passe? C'est un chœur d'enfants, c'est ça?
Oui, entre 10 et 20 ans. Et en fait, on travaille tout au long de l'année pour, à la fin de l'année, faire un spectacle.
Et tu adores ça?
Oui.
Quel plaisir ça te procure?
Ça soulage un peu, enfin ça détend.
Ça détend. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Pierre, et on est quasiment à la fin de cette émission. Le plaisir du chant, c'est ce qu'on va retenir quand même, Guillaume Lurton.
Oui, et qui est à chaque fois dans toutes les dimensions qu'on voit, la dimension collective extrêmement forte, ce rapport d'émotion et presque de pudeur à l'égard de sa voix, cette dimension collective, elle permet très souvent en fait de la dépasser. Et c'est ça qui est intéressant dans le chant choral aussi, c'est cette dimension formatrice. On n'a jamais chanté, on arrive à l'âge adulte sans jamais avoir fait vraiment de musique. Le chœur offre un univers dans lequel on peut, de manière relativement sécurisée, parce que dans le collectif...
Oui, parce que quand on est nombreux, on peut un petit peu se cacher.
Exactement,
aussi.
Exactement, le groupe est protecteur, ça c'est des choses que les gens disent, j'oserais pas me mettre toute seule, mais le fait d'être ensemble, on y va, et comme ça j'ai pu découvrir ma voix, et on voit tout à fait cette dimension formatrice avec des gens qui progressent très rapidement. Vous rejoignez une chorale au mois de septembre, au début de l'année, vous ferez le concert de Noël avec tout le monde 3 mois plus tard.
Et c'est que du bonheur. Et je voudrais juste, pour finir cette émission, lire le mail que Monique nous a envoyé. Elle dit, et en plus, les chorales sont des super agences matrimoniales. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci vraiment, merci Guillaume Lurton, merci beaucoup Marie-Noëlle Merten qui était en direct de France Bleu Orléans. À bientôt ici dans la Maison Ronde.